Pauline Pucciano. Titania 2.0. Le lendemain soir, à la même heure, Jean, déconnecté de son Hervé, guettait la foule. Il ne tarda pas à la voir apparaître, de loin, resplendissante de cette grâce délicate qui l'avait déjà séduit la veille. Il aperçut une silhouette qui lui plut, et lorsqu'il la détailla, il sut que c'était elle. Il n'aurait su dire si elle avait modifié quelque chose dans sa tenue, mais le même brouillard irisé de nacre et d'argent paraissait la nimber. Il aima à nouveau ses cheveux blancs comme un nuage autour de son visage pâle et lunaire, ses yeux limpides, dont la surface bleue lavande couvrait des profondeurs aquatiques, sa peau parsemée de ce qui apparaissait comme une poussière d'astre tombée d'un météore. Elle ne souriait pas, concentrée dans son monde intérieur, et traversait la foule bigarrée avec l'indifférence majestueuse d'une reine. Si le mot « art » désignait l'unité artificielle et harmonieuse de l'ensemble de toute la personne, elle était décidément la personne la plus « art » qu'il eût jamais rencontrée. En la suivant du regard, tandis qu'elle s'approchait de son pas léger, il constata qu'elle attirait les regards des passants. La beauté d'apparence naturelle, celle par exemple des policiers jeunes et sains de corps, celle que les siècles précédents avaient adulée, était devenue si banale qu'elle n'attirait plus les regards. On ne se retournait que pour les chefs-d'œuvre de la construction personnelle. Le self-art, comme on l'appelait outre-océan, avait, comme tous les arts, ses génies, ses ratés, ses écoles, ses chefs de file. Arrivée à sa hauteur, elle tourna les yeux vers lui, et, sans se déconnecter de son Hervé, elle inclina légèrement la tête. « Ça ne vous dérange pas si on s'éloigne de la foule ?» demanda-t-elle. « C'est un peu direct, » observa-t-il en souriant. « Qu'est-ce que vous vous imaginez ?»« Je ne sais pas, que vous m'attirez dans un traquenard, d'une sorte ou d'une autre. » »« Libre à vous de ne pas me suivre. » Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec ce genre de convenance. » Elle avait parlé simplement, sans provocation. Il sentait qu'il était sur le point de la perdre à jamais dans la foule, et se ravisa. « Où habitez-vous ? » ? « Assez loin d'ici, mais je dispose d'un véhicule personnel. » Jean ouvrit la bouche comme pour parler, et, à nouveau, se ravisa. Les véhicules personnels depuis la grande crise énergétique étaient devenus si chers qu'ils représentaient un luxe inouï. Un seul d'entre eux aurait suffi à faire rentrer dans le réseau tous les hors-réseaux de la ville. « Je ne suis jamais monté dans un véhicule individuel, » dit-il simplement. « Ce sera une première fois alors, » dit-elle en haussant les épaules. Puis, sans l'attendre, elle poursuivit son chemin, fière, le pas égal, la tête haute, le regard tourné vers l'intérieur, impossible à aborder. Jean la suivit tant bien que mal, avec un peu la même impression qu'en suivant le sécuribo. Il ne craignait pas la souffrance physique cette fois, mais le regret immense qu'il aurait de perdre la possibilité de son amour qui planait comme un ange au-dessus de leur tête mal assortie. Ils longèrent la fontaine serpentine et s'engagèrent dans l'avenue Amlaoui avant de pénétrer dans un parking. Du temps du cinéma 2D, les parkings étaient toujours associés au meurtre et aux violences urbaines, remarqua Jean. « Ah bon ? » dit Titania en riant franchement. « C'est bizarre. » Et en effet, cela était difficile à croire dans cette débauche de marbre, de parfums discrets et d'hôtesses modifiées. « Libère-t-on Titania ?» demanda l'une d'entre elles très respectueusement à la jeune femme. « Oui ? Votre véhicule a été entièrement lavé, assaini et parfumé, avec les compliments de la maison. Voici votre facture. N'hésitez pas à revenir en ville dès que vous le souhaitez. Les parkings clés d'or vous souhaitent... »« Oui, oui, vous pouvez zapper le baratin. » dit Titania dédaigneusement, tout en manipulant son Hervé afin de procéder au règlement. « Quel numéro ?»« Votre véhicule est déjà placé au niveau de la porte de sortie. Il n'attend plus que vous. » Jean ne pouvait s'empêcher de tout observer avec gourmandise. C'était la première et sans doute la dernière fois qu'il fréquentait ce monde invisible du grand luxe, un monde qui avait cessé de se montrer depuis presque un siècle, mais qui perdurait dans l'ombre, discrètement, comme un univers parallèle dont seuls quelques initiés connaissaient les codes. Le véhicule individuel, de type semi-volant, paraissait assorti à Titania, ou plus exactement, il paraissait être l'œuf dont elle venait de sortir, toute fraîche et close. D'un blanc nacré aux diaprures d'argent, il paraissait presque organique, avec ses écailles synthétiques et sa figure de proue stylisée, qui représentait une sorte d'animal profilé. Titania manipula son Hervé, qui émit un son modulé, et l'œuf se fendit et s'ouvrit, révélant un habitacle impeccable et luxueux. Il s'agissait bien sûr d'un modèle automatique. Les modèles pilotables manuellement n'étaient pas en vente pour les particuliers. Titania manipula encore son Hervé pour entrer la destination, puis invita Jean à prendre place en face d'elle, et l'œuf se referma. Les parois, opaques de l'extérieur, étaient transparentes de l'intérieur, et Jean ne put s'empêcher de se coller à la fenêtre. Le véhicule sortit en roulant par une porte située au second étage, exactement à la hauteur voulue, puis il y eut un bruit de propulsion, une sensation de modification de la pesanteur, et l'œuf se mit à survoler, lentement, à quelques mètres du sol, le paysage urbain. « Quelle vue fantastique » murmura-t-il. « Arrêtez de dire des banalités ou je vous fais descendre. » Il la regarda un instant et comprit qu'elle l'observait, lui, avec la plus grande acuité, tandis qu'il se comportait comme un enfant devant toutes ces choses dont elle était probablement blasée. « Veuillez me pardonner, dit-il, je n'ai jamais bien su dissimuler mes sentiments. Trouvez-vous banal le sentiment d'émerveillement ? Je dirais au contraire qu'il est le sentiment le plus rare. « C'est mieux, dit-elle en se déridant, mais sans cesser de l'observer. Je vous autorise à regarder par la fenêtre. » Elle pianota sur son Hervé à une vitesse prodigieuse. « Je vous ai programmé un itinéraire touristique, dit-elle, nous avons bien le temps. » « Vous paraissiez pressé tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas de temps à perdre avec ce genre de convenances. » « Avec les convenances, je n'ai pas de temps à perdre, mais pour votre émerveillement, c'est très différent. »« Merci, » dit Jean en détournant son regard vers la fenêtre. Il ressentait sa présence très fortement dans la pénombre du véhicule et du soir qui tombait. Elle était parfaite, presque irréelle de perfection, et il la désirait de plus en plus ardemment. Mais son cœur battait aussi devant les beautés de la ville. « Regarde le monde, » lui disait sa mère, et il ne pouvait s'empêcher de s'engorger les yeux. Ils survolèrent les avenues illuminées, les palais silencieux, les places arborées, les tours de verre, le fleuve indolent qui prenait dans la pénombre un air mystérieux. Ces images, qu'il avait déjà vues mille fois sur écran, lui semblaient entièrement nouvelles et s'engouffraient dans son âme avec la violence d'un éclair. Il était en train de vivre un de ces instants qu'il n'oublierait jamais, et la voluptueuse flottaison du véhicule, ainsi que le regard lavande, brillant, fixé sur lui, participait bien sûr de l'émotion singulière qui l'étreignait. Les jambes parfaitement lisses de Titania, à quelques centimètres à peine des siennes, l'attiraient de façon magnétique, et tout en continuant à regarder par la fenêtre, comme aurait pu le faire un vieil amant, il passa le dos de sa main, très doucement, de sa cheville jusqu'à son genou, où il s'arrêta. Il la regarda. Elle n'avait pas changé d'expression. Récitez-moi l'un de vos poèmes, dit-elle en fermant les yeux et en pianotant distraitement sur son Hervé. Jean s'exécuta d'une voix grave et sonore. Flottant dans le ciel blême au-dessus des structures, suivant aveuglément la courbe programmée de mon désir, de mon effroi, de mes censures, la beauté entre en moi comme un frisson glacé. Continuez, murmura-t-elle en lui prenant la main, les yeux toujours fermés. Au ventre du serpent aux écailles nacrées, l'espace est refermé et le temps immobile suspend l'acte interdit de ma main malhabile, tandis qu'un vent balaye l'histoire et les cités. Elle soupirait à présent, presque comme si elle s'offrait au plaisir, et il continua. « Qui es-tu, fille de neige et d'artifice ? De quels milliers de noms couvres-tu le calice rayonnant et secret de ton identité ? Qu'étreindrai-je ce soir, miracle ou maléfice, quand ma main brisera comme en un sacrifice l'éblouissante glace de ta nudité ? » Jean resta silencieux quelques secondes, envahi du désir d'elle, et il approcha ses lèvres des siennes. Le contact fut très doux, mais très bref, car elle se retira. « Pas tout de suite, » dit-elle. Puis elle sourit, pianota à nouveau sur son Hervé. « C'était parfait, » dit-elle, « parfait. » Jean secoua la tête pour revenir à la réalité. « On dirait que vous parlez d'une performance, » dit-il. Elle sourit encore. « C'est le cas. J'ai enregistré ce moment, Vous venez de m'offrir le souvenir 3D le plus poétique et le plus érotique de toute mon existence. Vous voulez le lire ? Et me mettre à votre place ? Non, sans façon. L'immersion virtuelle me donne la nausée, et je trouverais ça très étrange d'échanger ainsi les rôles sur un instant que nous venons de vivre. Vous avez tort. Je suis sûre que personne n'a jamais été ému par l'un de vos poèmes autant que moi. Je suis tombée amoureuse de votre poème hier, et celui que vous venez de composer m'a presque donné un orgasme. Vous n'êtes pas curieux de savoir ce que je ressens ? Jean regardait la nuit à travers la fenêtre, mais sans la voir. La présence de Titania avait estompé et comme effacé toute réalité extérieure. « Où allons-nous » demanda-t-il. « Nulle part, » dit-elle d'un air mutin. « Cela suffit amplement pour ce soir. »« Vous trouvez ?» demanda-t-il, malheureux à l'idée de la quitter en restant sur son désir. « Nous avons vécu un moment parfait, n'est-ce pas ? Il faut le savourer le plus longtemps possible. Nous nous reverrons demain. » Il avait envie de protester, mais de toute évidence, c'était elle qui décidait. Ils restèrent silencieux pendant le reste du trajet, les yeux fixés machinalement sur le paysage nocturne qui n'exerçait plus sur eux le charme puissant qu'il avait eu au crépuscule. Elle le déposa à la porte aérienne d'une tour commerciale, voisine de son appartement, et il se retrouva brusquement seul dans la fraîcheur d'une nuit urbaine pleine de bruit, de bousculades et d'odeurs mêlées. Mais un sourire béat flottait sur ses lèvres, et il traversa les rues en direction de son appartement, totalement absorbé en lui-même, revivant en boucle l'heure passée avec Titania. En rentrant dans son appartement, il eut à peine le temps d'avaler une dose nutritive. Deux appels presque simultanés résonnaient déjà, étrangement, dans sa routine bouleversée. L'un venait du commissariat, l'autre d'un RV inconnu. Il prit à contre-cœur celui du commissariat. « Corville ?»«
Oui. »
Le visage de l'étourneau sur écran paraissait synthétique, comme celui d'un personnage virtuel. La peau trop pure, les dents trop bien rangées, la coupe de cheveux trop léchée. « On peut savoir ce que vous attendez ?»«
Je vous demande pardon. » »«
Pour faire votre rapport, Liberton Corville. Ou bien, dois-je vous envoyer un sécuribot à domicile ?» Jean ne fulminait pas seulement à cause de la grossièreté des manières, qui contrastait désagréablement avec sa perfection plastique. Il éprouvait une réelle souffrance à l'idée que l'instant merveilleux qu'il venait de vivre devait être livré en pâture à des étrangers. Mais il savait aussi qu'il ne se débarrasserait pas du policier sans lui avoir jeté un os. Il n'avait pas le choix. « Eh bien, elle... Mais vous êtes attardé, Corville. Je vous ai donné un crypteur. Croyez-vous que ce soit pour vous entendre parler à tous les vents ?» Vous avez 10 minutes avant la venue d'une armoire roulante, avec la consigne spéciale de vous faire monter à bord. » La communication fut coupée, abruptement, et Jean se retrouva balbutiant des protestations inutiles devant son écran indifférent. La seconde personne qu'il avait appelée avait laissé un message, et c'était Titania. Il s'agissait d'un message vocal, sans diffusion vidéo. Mais il reconnut sa voix tout de suite. « Je n'aurais pas dû vous faire partir, dit-elle. Rejoignez-moi dès que vous le pourrez. » Au 278 boulevard des Innocents. Jean écouta le message 2, 3, 4 fois. La voix était toujours légèrement rauque, à peine plus forte qu'un murmure, comme un espoir secret. Une joie profonde succéda, ou plutôt se superposa, à la colère et au sentiment d'impuissance qu'avaient provoqué les tourneaux. L'amour de cette fille valait tous les ennuis du monde. Il se saisit du crypteur et envoya un message rapide. « J'ai été appelé par Titania pour me rendre à son domicile. Je vous ferai parvenir un rapport complet demain. La relation de confiance paraît bien engagée. La demoiselle semble particulièrement riche. » Il se relut, en faisant attention à chaque mot. Il n'avait pas donné l'adresse. Il effaça d'ailleurs le message vocal de Titania à tout hasard. Il n'avait rien dit de précis. La fortune de la jeune fille devait être connue de tous, et il ne la compromettait pas en la mentionnant. Pour le reste, il y penserait demain et trouverait un moyen de gérer cette situation impossible. Et en attendant, il y avait devant lui tout l'espace mystérieux et enivrant qui le séparait du lendemain, toute une nuit inconnue et vertigineuse où les sentiments et les voluptés s'éveilleraient peut-être de leur lourd sommeil quotidien. Il calcula l'itinéraire sur son RV et décida de marcher jusqu'à Montparnasse et de prendre le métro ensuite. Ses oreillettes branchées, il écouta une symphonie post-électronique qu'il aimait particulièrement et ne fit attention à rien de ce qui l'entourait.
dans l'obscurité fraîchissante des ruelles anonymes, dans les stries de lumière géante des écrans publicitaires des avenues, dans les couloirs aseptisés du métro où déambulait une foule de somnambules pressés, l'image de Titania se réfléchissait sur toutes les surfaces et prenait corps dans toutes les silhouettes. La ville lui paraissait pleine d'elle, mais également parfaitement vide. Il se dirigeait vers le nouveau centre de gravité brutalement éclos dans son existence. Ce centre le magnétisait, l'attirait, avec une puissance irrépressible. Jean était tombé amoureux.